BPM. Élections législatives 2022.
Et bienvenue sur BPM. Si vous venez de nous rejoindre, le second tour des élections législatives aura lieu ce dimanche 19 juin. Et à cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales avec les candidats qualifiés pour ce second tour sur la 5e circonscription de l'Eure. Et nous accueillons tout de suite François Auzillot, candidat de la majorité présidentielle Ensemble. François Auzillot, bonjour.
Bonjour BPM.
Merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord. Alors François Auzillot, on rappelle que vous avez 37 ans, vous êtes le maire de Vernon, conseiller régional de Normandie et président délégué et vice-président de cette Normandie agglomération en charge de l'attractivité économique et de l'innovation. Et vous êtes donc candidat avec comme suppléante Béatrice Loubouic, première adjointe des Trépani. Alors au cours de cette émission, on va d'abord revenir sur les résultats du premier tour. Au niveau national, la majorité présidentielle Ensemble est ressortie en tête avec 25,75% des votes exprimés, suivi de près par NUP avec 25,66% et puis le Rassemblement national avec 18,68%. Tout d'abord, vous, que pensez-vous de ces scores?
Ce que je pense, c'est que globalement, les Français ont quand même souhaité donner une majorité au président de la République réélu il y a maintenant 6 semaines. Certes, dans un bloc de 3 forces politiques, une force très centrale, qui est celle au final pour laquelle je suis candidat aujourd'hui, la majorité d'Emmanuel Macron, et puis 2 blocs des extrêmes, c'est comme ça que je les ai appelés durant ma campagne, je continue à le dire, une extrême droite, qui au final a vu son score considérablement baisser entre les présidentielles et législatives, ce qui est le cas d'ailleurs à chaque fois avec Marine Le Pen, ses électeurs ne se mobilisent pas pour les élections législatives, et elle-même quelque part, elle enterre plus ou moins le scrutin en expliquant qu'il est perdu d'avance. On en reviendra évidemment à notre département où les duels opposent quand même essentiellement la majorité d'Emmanuel Macron à des candidats du Rassemblement National. Puisque vous me parlez du national, je fais forcément une parenthèse nationale. Quant au bloc de cette alliance bizarroïde et pour le moins étonnante entre les écologistes, les communistes, les socialistes, et la LFI, Monsieur Mélenchon, grand démagogue en chef, effectivement arrive au coude à coude avec la majorité présidentielle. Mais quand on compare les dernières élections sur 20 ans, au final, la gauche additionnée retrouve globalement ses scores. Et alors qu'elle correspondait à 1 électeur sur 2 à l'époque de François Mitterrand, elle correspond aujourd'hui péniblement à 1 électeur sur 4.
Vous avez abordé déjà un petit peu le niveau local, donc du coup sur le département, sur la circonscription plus précisément, les résultats sont quand même plus différents que ce qu'on voit au niveau national avec le Rassemblement National qui est passé en tête ici de la circonscription juste devant vous et puis on retrouvait du coup NUPS derrière avec un peu plus de 20%. Qu'est-ce que vous avez pensé vous aussi de ce résultat sur la circonscription?
Pas complètement surpris pour être tout à fait transparent avec vous. Le département de l'Eure, sur ces élections, envoie toujours un Rassemblement National assez fort, quelles que soient les circonscriptions, de la première à la cinquième. Là, il y a une exception dans la quatrième. D'ailleurs, j'avais une pensée pour Bruno Ketel, qui malheureusement n'est pas qualifié au second tour. Et dans cette circonscription, ce sera le candidat NUP contre le Rassemblement National. Pour les autres, c'est le Rassemblement National face à la majorité d'Emmanuel Macron. Force est de constater que, sans m'envoyer des fleurs, c'est moi qui ai le plus petit écart avec le candidat du Rassemblement National, 600 voix environ. Donc c'est plutôt encourageant pour ce second tour qui s'annonce, qui a lieu dimanche, comme retard à rattraper, si j'ose dire. Comment expliquer cela? C'est que sur ces élections nationales, hélas, trop d'électeurs envoient des candidats Rassemblement National au second tour, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils considèrent que nous n'avons pas suffisamment répondu à leurs questions, à leurs craintes ces 5 dernières années. On l'entend, je suis le premier à l'entendre. Avec tous les élus locaux qui m'ont soutenu, plus de 200, on essaye à notre niveau local, de maire, de président d'agglomération, de communauté de communes, de maire adjoint, de vice-président de communauté d'agglomération, de trouver des solutions, de débloquer les projets, de répondre à toutes ces souffrances que les habitants manifestement de l'Eure expriment sur ces élections nationales. Pour ce qui me concerne, Je pense qu'il vaut mieux faire le choix d'un député élu local depuis près de 8 ans, engagé sur son territoire depuis une bonne quinzaine d'années, militant politique dans un premier temps, élu local dans un second, même si je cumule ces deux fonctions toujours aujourd'hui, de militant et d'élu, toujours intéressé par la politique depuis tout petit et surtout vernonné depuis plus de 30 ans. Face à un candidat du Rassemblement National qui a fait le tour de la Normandie, le tour de l'Eure plusieurs fois, qui n'a même pas voté dans cette circonscription dimanche dernier, qui ne votera de nouveau pas dans cette circonscription dimanche dernier puisqu'il vote à Louviers. Il doit sans doute y avoir une adresse, mais je doute qu'il y habite également, après être passé par Bernay et aussi par la Seine-Maritime. Voilà comment les candidats du Rassemblement National respectent, je dirais méprisent, les Eurois et les Eurois en leur parachutant des personnages qui ne connaissent strictement rien du territoire. Moi, modestement, je pense avoir fait mes preuves en tant qu'élu local, vous l'avez rappelé, maire de Vernon et vice-président en charge du développement économique sur SNA.
Justement, d'ailleurs, sur Vernon, j'imagine qu'il y a une satisfaction des scores réalisés sur la commune de Vernon avec un RN particulièrement bas.
Deux choses. Remerciements, évidemment, aux Vernonaises et aux Vernonais qui m'ont fait confiance. C'est pas chose aisée de voter pour un maire qui souhaite accéder à d'autres fonctions. Je tiens à les rassurer d'ailleurs, je resterai élu municipal si je suis élu député dimanche prochain. Je suis très attaché à cette ville. Je suis quasiment possessif de mes dossiers et de mes projets. J'aurai du mal à les déléguer, donc j'en suivrai encore un certain nombre et un nombre certain. Je peux l'assurer devant vous et devant ceux qui nous écoutent. J'abandonnerai donc la région si je suis élu député, parce qu'il faut faire un tri dans ses différents mandats. Donc je resterai ici, j'habite ici, j'y ai investi encore récemment d'ailleurs à Vernon. Et donc je suis très 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 attaché à cette ville et il y a encore du travail. J'ai une belle équipe autour de moi, un beau collectif. Et ensemble, nous continuerons à avancer dans les années qui viennent pour continuer à transformer Vernon. Ce que je constate effectivement, c'est qu'on m'a mis largement en tête de ce scrutin à Vernon même. À près de 40%, comme déjà l'année dernière d'ailleurs sur des élections qui intéressent encore moins, hélas, les élections régionales. Donc à chaque scrutin sur mon nom, les électrices et les électeurs me font confiance à Vernon. Ils ont mis ensuite en deuxième position M. Jourdain, qui a eu quelques difficultés à se positionner ces 48 dernières heures entre moi et le candidat du Rassemblement National. Et puis, on voit effectivement, depuis que nous sommes arrivés aux manettes en 2014 à Vernon, une baisse, ou du moins une stabilité ces dernières années, une grosse baisse et puis une stabilité ces dernières années des scores du Rassemblement National qui tournent autour des 15% globalement. Alors que je vous rappelle que dans les années 2000, les scores du Front National à Vernon étaient beaucoup plus élevés et que même nous-mêmes, la première fois que nous sommes présentés à Vernon, il y avait deux listes d'extrême droite face à nous.
Abordons le sujet de ce second tour dimanche, faisons un petit point du coup sur la dynamique de ce second tour. Comment est-ce que vous avez abordé déjà ce début de semaine et jusqu'à dimanche?
Aller chercher les électeurs qui n'ont pas été votés au premier tour et convaincre les électrices et les électeurs de la gauche raisonnée, de la droite modérée. Il y en a, le candidat David Daverton qui n'a pas été beaucoup plus clair sur la manière dont il se comporterait sur le second tour. Hélas, je ne suis pas certain que ça rende service à ces candidats de ne pas être clair entre un candidat républicain et un candidat d'extrême droite. Je ne vois pas où il a difficulté à se positionner, en fait, et j'aurais aimé qu'il fasse preuve de davantage de clarté. D'autres candidats ou figures politiques de la gauche de ce département ont mis en place des messages très clairs sur les réseaux sociaux, dans la presse. Je pense très fort à Jean-Luc Lecomte, le patron historique du coin concernant le Parti communiste. Il a été très clair, il a même cité mon nom, rien ne l'a obligé. Mais entre des gens qui ne savent pas se positionner, d'autres qui disent pas une voix au Rassemblement National, et d'autres encore alors que nous combattons depuis 10 ans, 15 ans, mais nous respectons profondément, ils appellent à voter pour moi face à Timothée Oussin, face au danger de l'extrême droite. Donc, continuer à aller chercher ces personnes qui malheureusement ne s'intéressent pas au scrutin des législatives alors que c'est un scrutin majeur. C'est ce qui permettra au président de la République d'avancer, de réformer, d'avoir la capacité à agir pour les 5 prochaines années. Si l'Assemblée est obstruée par une majorité NUP, ce ne sera pas une majorité manifestement du Rassemblement National. C'est en cela que voter pour Timothée Oussin n'a strictement aucune utilité puisqu'il fera partie d'un petit groupe dont Marine Le Pen a annoncé d'ores et déjà qu'elle n'aurait quasiment pas de pouvoir à l'Assemblée nationale. Par contre, au niveau national, il y a un vrai danger Mélenchon, il y a un vrai danger d'un chef menteur, démagogue, qui n'aime pas la police, qui dit que la police tue, qui est pour, quelque part, la fin de la laïcité, qui prône le communautarisme, le wokisme. Et ça, c'est pas du tout ma manière de voir la République, de voir la nation. Donc, je continue évidemment à battre le terrain dans les villes, dans les villages, porte à porte. Rassemblement général pour le porte à porte. On va toquer à toutes les portes. On va expliquer en quoi le choix de dimanche est essentiel pour les 5 prochaines années. Et puis, je ferai témoigner aussi sur les réseaux sociaux un certain nombre de personnalités de la société civile, de personnalités de gauche et de la gauche républicaine. Pas celle qui, encore une fois, s'oppose au système et veut détruire notre pays.
Vous l'avez un peu abordé forcément au cours de cette dynamique pour le second tour. C'est ce fort taux d'abstention qu'il y a eu encore dimanche, et notamment sur les jeunes, sur les 18-35 ans qui semblent ne plus croire en la politique. Alors pour quelles raisons selon vous, et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aillent voter dimanche?
Manifestement, il y a une remise en question à avoir chez nous, le personnel politique de tout âge. Hein. Moi, je suis jeune, je me suis toujours intéressé à la politique. Alors, je suis moins jeune que quand je me suis engagé. J'ai 37 ans, je me suis engagé aux alentours de la vingtaine d'années, même si je m'intéressais à la politique depuis quasiment l'école primaire ou le collège. J'ai été frappé par l'affichage de Jean-Marie Le Pen à la télé en 2002 lors du premier tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. C'est quelque part ce qui a généré un engagement, comme d'autres de ma génération, sans comparaison évidemment par rapport aux fonctions qu'ils occupent aujourd'hui, mais je pense très fort à Gérald Darmanin, à Sébastien Lecornu, que je connais depuis très longtemps, qui sont dans une sorte de compagnonnage avec moi, en tout cas pour le second. Au niveau local, manifestement, on arrive à faire voter les jeunes pour nous parce que on change la ville, on fournit des services nouveaux, on anime cette ville avec un événementiel que vous avez encore vu il y a maintenant 15 jours avec la foire de Vernon, avec des événementiels aussi pendant la période estivale, avec beaucoup d'offres culturelles, sportives, éducatives. Mais c'est vrai que sur les élections nationales, à Vernon comme ailleurs, on perd une grande partie de la jeunesse, celle qui est en âge de voter, d'ailleurs celle qui au final est inscrite automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans. Ça a été fait à la fin des années 90, et c'était d'ailleurs la gauche qui avait fait ça, c'était Lionel Jospin, je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà, ils ne se sentent pas concernés par le scrutin, alors peut-être que la méthode est à revoir pour tous les partis politiques, pour toutes les femmes et les hommes politiques sur la manière d'informer, sur la manière de faire de la pédagogie sur le sujet. Mais en tout cas, il y a beaucoup de projets, de propositions dans tous les programmes, mais surtout évidemment dans celui de la majorité présidentielle, concernant la jeunesse, sur l'apprentissage, sur la manière dont le lycée professionnel sera aussi réformé lors de ce second quinquennat, sur les aides à la mobilité, notamment sur des voitures à 100 € électriques, pour ceux qui n'ont pas les capacités de se déplacer pour accéder à la formation ou à l'emploi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Le sport aussi, la culture, le pass culture, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Je ne sais pas vous dire comment il faut faire. J'ai des pistes, en tout cas encore une fois au niveau local, modestement nous y arrivons. Au niveau national, c'est un travail général à opérer, ça ne date pas d'hier, mais j'espère en tout cas que dans cette circonscription, dimanche prochain, la jeunesse se mobilisera pour au moins leur maire, le maire de Vernon, puisqu'il comprend leurs problèmes.
Alors pour les 6 dernières minutes de cette émission, déjà nous allons revenir forcément sur votre programme avec notamment en matière d'agriculture où vous souhaitez faciliter l'installation de jeunes agriculteurs. Selon le ministère de l'Agriculture, près de 100 000 exploitations ont disparu en 10 ans à l'échelle nationale. Quelles mesures est-ce que vous comptez mettre en place?
Alors la cinquième circonscription Bleu, effectivement est un territoire très rural, beaucoup plus rural au final qu'urbain. Moi, en tant que maire de Vernon, je représente cette grande part du tissu urbain, mais essentiellement la circonscription est faite de ruralité, d'exploitation agricole, d'agricultrices, d'agriculteurs. J'en ai rencontré beaucoup durant cette campagne, des jeunes agriculteurs d'ailleurs, qui reprenaient parfois des exploitations familiales, dans une forme de tradition, dans une forme de succession familiale, et d'autres qui, du jour au lendemain, alors qu'ils avaient fait complètement une autre vie auparavant, désormais ils voulaient faire encore autre chose, et notamment d'ailleurs après les différentes périodes de Covid et de confinement, se lancer dans l'exploitation agricole, dans la production en circuit court, en produits qu'on vient chercher directement à la ferme. Et j'ai vu une nouvelle génération d'agriculteurs, et comme je suis connu pour travailler un peu, j'ai potassé ces sujets que je connais pas forcément très bien, mais je n'ai pas honte à le dire. Par contre, j'estime que quand je travaille un peu, je comprends un peu aussi. Et j'ai vu qu'ils avaient un certain nombre, évidemment, de problématiques, de craintes. Globalement, ils se sont trouvés plutôt bien accompagnés par leur ministre de l'Agriculture ces dernières années, notamment par Julien de Normandie, évidemment, avec Marc Fesneau qui est dans une continuité. Mais j'ai senti qu'il fallait aider à l'installation des jeunes agriculteurs, notamment à travers l'accès à du foncier plus facilement, promouvoir les métiers de l'agriculture. Je vois dans le tissu rural que les écoles vont facilement visiter les fermes, mais par exemple, à Vernon, c'était pas naturel. Donc, quand je suis rentré de ces visites, j'ai demandé à mes services d'organiser plus de visites dans les exploitations, dans les fermes, aller voir les animaux pour aller voir comment fonctionnaient notamment les apiculteurs. Il y en a un certain nombre sur notre circonscription. Je pense que ça intéresse beaucoup les enfants. Et donc, il y a une forme d'appétence à provoquer, à générer dès le plus jeune âge pour tous ces métiers. Puis ensuite, après, il y a l'adolescence, l'accès au lycée professionnel, au lycée agricole, dont les choses doivent être renforcées en termes de communication, en termes de pédagogie. Il y a eu beaucoup plus de lycéens agricoles ces dernières années qu'il y en a eu auparavant. Il faut continuer dans ce sens. Et puis surtout, il ne faut pas opposer les différentes formes d'agriculture. Elles sont complémentaires, on doit toutes les valoriser. Certains s'orientent vers le bio, d'autres sont sur des sujets plus classiques, plus traditionnels. Il faut absolument accompagner toutes ces filières et puis faire attention aussi à la manière dont on consomme le foncier, notamment le foncier agricole, ne pas faire tout et n'importe quoi, raisonner globalement en termes d'aménagement du territoire, ne pas mettre des zones économiques là où il n'y en a pas besoin, ne pas supprimer des parcelles entre guillemets d'exploitation agricole pour installer des zones économiques qui n'ont rien à faire ici. Voilà, faut mieux aussi raisonner sur l'aménagement de notre territoire. Et puis, les agriculteurs connaissent aussi quelque part les crises, et notamment la crise géopolitique avec une hausse d'un certain nombre de matières. Il faut continuer à les accompagner. Le gouvernement a mis beaucoup de choses en place sur le sujet. Donc, sur ce sujet, ils sont entendus, ils sont écoutés, ils ont des aides concrètes, alors qu'avec un candidat du Front National, avec une majorité du Front National, écoutez, ce sera la sortie de l'Europe, donc la sortie de la politique agricole commune. Je pense que là, pour le coup, c'est le début de la fin pour les agricultrices et les agriculteurs. Donc, deux manières de voir l'agriculture, deux manières aussi de voir l'agriculture au niveau européen, puisque l'agriculture se gère aussi au niveau européen maintenant depuis un certain temps.
Passons à un autre sujet de votre programme qui concerne cette fois-ci la jeunesse, avec toujours ce même problème de l'emploi chez les jeunes. Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette problématique?
Déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en termes de résultats économiques, de résultats en termes de formation, je pense que là-dessus, on peut pas dire que le président de la République et sa majorité, son gouvernement sous le précédent quinquennat n'ont rien fait. Le taux de chômage est le plus bas depuis 15 ans dans ce pays. Le quoi qu'il en coûte a sauvé des emplois, a sauvé des entreprises, a sauvé des artisans, a sauvé des commerces. Contrairement à des endroits où il n'a pas été utilisé, et notamment chez nos voisins. La santé a été préservée, l'éducation n'a pas été sacrifiée. Donc encore une fois, dans la gestion de la crise, à la fois sur le volet social comme sur le volet économique, le compte y est. Il a coûté, c'est vrai, mais ça a été une mesure d'amortissement qui a permis de rebondir après la crise. L'apprentissage, qui a été beaucoup critiqué, notamment par toutes sortes d'oppositions, c'est plus 700 000 apprentis ces dernières années. Ils étaient que 300 000 en 2018. Maintenant, les jeunes, il faut s'en occuper, on en parlait tout à l'heure, dès le plus jeune âge, dès l'école. Et là-dessus, moi, je l'ai vu à Vernon, le dédoublement d'un certain nombre de classes dans les quartiers prioritaires a généré des résultats probants. Être à 10, 15 par classe, être suivi plus individuellement, génère de bons résultats. Un bon citoyen, une tête bien faite, c'est dès le début, c'est dès l'école primaire, dès l'école maternelle que ça s'opère. Ensuite, il l'a dit, sur le collège, il faut rajouter des heures de sport. Et ça, c'est important, une tête bien faite dans un corps sain. Je pense que c'est extrêmement important pour nos jeunes. Ensuite, le président a accepté aussi quelques corrections par rapport au précédent quinquennat. Plus d'heures de mathématiques au lycée, notamment en première. on voit qu'on a une crise sur la filière scientifique, sur les métiers scientifiques. Et puis, continuer évidemment à accompagner aussi, je le disais tout à l'heure, l'apprentissage. Moi, je suis, j'ai 37 ans, j'ai eu mon bac il y a fort longtemps. À mon époque, le lycée général était la voie royale et le lycée professionnel était fort critiqué. Il faut absolument inverser cette tendance. Maintenant, quelque part, on peut bien mieux gagner sa vie en faisant des filières professionnelles plutôt qu'en faisant des filières générales. Donc, il ne faut absolument pas stigmatiser ni l'une ni l'autre et mettre les adolescentes et les adolescents là où ils sont les meilleurs. Pour ça, il faut valoriser les filières, il faut leur donner le goût d'un certain nombre de métiers qui sont en recherche, qui sont en manque. Je pense très fort, par exemple, à des métiers qu'on connaît dans l'industrie aérospatiale, Ariane, par exemple des soudeurs, il n'y en a plus. Tous ces métiers-là, il faut absolument faire en sorte de continuer à les accompagner, de créer les formations qui vont bien et de faire en sorte que les jeunes y aillent. Et à contrario, avoir un positionnement et un discours clair sur des filières, notamment post-bac, qui ne mènent à rien sauf au chômage. Voilà, donc mieux orienter, mieux former, mieux aussi rémunérer les enseignants, ça a été dit très clairement par le président de la République, donner plus de liberté à certains établissements, comme ce fut le cas il y a maintenant une quinzaine d'années avec Valérie Pécresse sur les universités. Il expérimente cela sur des établissements scolaires, notamment à Marseille, où les chefs d'établissement ont plus de pouvoir pour recruter, plus de liberté pour recruter. Et ça, c'est une chose qui sont attendues aussi par le monde de l'éducation nationale. Moi, je le sais parce que j'ai un proviseur de lycée dans mon équipe municipale à Vernon. Donc, on voit, il y a un certain nombre de sujets qui doivent être traités, mais ça fait partie des piliers du programme présidentiel, l'éducation.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. François Ozio, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette interview sera rediffusée aujourd'hui à midi et à 18h et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast puis élection législative. Et puis à 8h30, nous recevrons Timothée Houssin, candidat pour le Rassemblement National. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élection législative 2022.